Moi, j'aime bien ne pas vous laisser désœuvrer lorsque vous n'êtes pas le DS. Je prends un cours à la place. Ça a été évoqué qu'on fasse demain. Voilà, je vais vous mettre là, je pense que la main juste. On prend un petit test, voir si. Voir, voir.
Moi, j'ai lancé là.
Pardon ?
Je l'ai lancé.
D'accord.
Pour voir si ça marche. Okay.
Donc, oui, j'aime bien vous prendre en plus. Donc, ça a été évoqué hier. Est-ce que vous prenez cet après-midi ? Bon, de toute façon, vu le nombre que vous êtes, c'est même pas la peine. Et puis, voilà, je ne vais pas vous prévenir au dernier moment. Donc, cet après-midi, de toute façon, je ne vous prends pas. Vous êtes donc libéré selon que vous faites LV2 ou non à midi ou à 14h. Vendredi prochain, a priori, enfin, la situation évolue au jour le jour, donc on verra. Mais a priori, vendredi prochain, je vous prendrai 2h de 14h à 16h, vendredi après-midi, puisque vous n'avez pas de DS. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si vous avez même des craintes sur cette histoire de virus et tout, n'hésitez pas à en parler, ou voilà, certainement déjà fait par mail, mais... ok. Bon. Et ne vous inquiétez pas, dans l'année, je vous expliquerai ce que c'est une PCR. Parce que ça, c'est tout le monde en parle, la première fois de l'histoire de l'humanité que tout le monde parle de PCR sans savoir ce que c'est. Jusqu'à l'an dernier, moi, j'enseignais chaque année, et tout le monde me disait, pourquoi tu fais ça, c'est pas intéressant, et tout. En fait, maintenant, tout le monde a envie de savoir ce que c'est une PCR, évidemment. Donc, voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous présente Marguerite. Non, ça c'est un dessin de Marguerite, et ça c'est Marguerite pour nous. C'est une bâche et, qui va nous occuper pendant une partie de cette année, puisque notre premier chapitre, hein, comme vous l'avez dit, en parallèle avec... Non, excusez-moi, j'ai pas fait l'appel. Oh. Sauf l'appel, je suis désolé. Ah, bon. Lucie Baquet. Voilà. Maïlis, super. Suzanne,
voilà.
Non, j'ai plus besoin de vous mentionner. Okay, bon. Mathieu,
oui.
Emeline, Jérémy, Marine Tazier, Apolline Charles,
oui.
Léa. Oscar, Lola, Thomas,
oui.
Anaïs, Loïse,
oui.
Marion, Marie, Lucas, Célia, Emeline, Camille, Martin, forcément, merci Martin, Sarah, Garance, Clara.
Bonjour,
excusez-moi. Plus. Donc Clara n'est pas là. Avec Kylian, il vient d'arriver. Jeanne. Margot.
Oui.
Lilou. Agathe.
Oui.
Colline. Alicia,
oui.
Maud,
oui.
Blandine, Maureen, pardon, Philippine, Julie, Chiara, Enola,
oui.
Jean. Tunis,
oui.
Lucien, Tristan, Zélie, Élise,
oui.
Émilie, Verquin, Thomas. Et Luna.
Oui.
Ok. Bon. Excusez-moi, c'est un peu fastidieux. J'avais pas de liste imprimée, donc c'est un peu compliqué. Alors, bon, du coup, on va s'y mettre. Alors, comme je vous l'expliquais à l'instant, on va pendant une première partie de l'année, pour notre premier chapitre qui va nous occuper un peu plus de 3 semaines, on va se focaliser sur de la biologie animale comme on l'a fait en TP hier. Donc le TP qu'on a fait hier, là, pour le coup, il est complètement raccord avec le cours. Et donc, il y a beaucoup de trucs sur lesquels on est passé très très vite. Je vous ai dit, on va le voir en cours. Bon ben voilà, vous voyez qu'on va souvent se répondre entre le côté purement pratique de la dissection et le côté plus théorique sur la biologie des vertébrés, la biologie des mammifères en particulier, et plus généralement la biologie des animaux pendant ça. Alors notre premier chapitre, il s'appelle tout simplement, vous l'avez, hein, voilà, vous avez un peu poli, sur lequel vous avez le plan, on va compléter au fur et à mesure, et puis la totalité des documents qu'on va exploiter pendant ce cours, et régulièrement, il y a des documents qu'on va annoter, qu'on va ajouter des infos, etc. Donc ce document avec toutes les illustrations, il faut systématiquement l'avoir avec vous. Et de toute façon, comme pour les colis de TP, il est déjà en ligne sur mon site, donc vous pouvez le télécharger pour l'avoir sur votre tablette, sur votre ordi, n'importe quoi, pour pouvoir le bosser. Notamment, il y a des documents couleur hein, qui sont un peu plus jolis que la version noir et blanc que vous avez là. Alors, notre chapitre s'appelle B1, B comme biologie, donc tous les chapitres de géologie s'appelleront chapitre G quelque chose. Donc chapitre B1, l'organisme animal, tout simplement. Alors c'est un chapitre qui a vocation à étudier la biologie animale en général, et à étudier ce qu'est un animal, quelles sont les caractéristiques d'un animal. En particulier, on va le voir, hein, comment ça se produit, comment ça... ça se nourrit, comment c'est en relation avec son environnement. Vous allez voir, on va étudier en particulier un type d'organisme particulier qui est la vache. Alors c'est toujours un petit peu compliqué parce que ce chapitre a vraiment une portée très générale. C'est l'animal en général ou les animaux en général, sachant que des animaux, il y en a plusieurs millions d'espèces. Par contre, on va se focaliser sur un exemple. Donc il va falloir toujours jongler entre ce qui est du domaine de l'exemple, quand je parlerai par exemple de rumination, bah, ce sera bien vrai que pour les ruminants et pas du tout pour les méduses et les dauphins ou je sais pas quoi, forcément. Par contre, il y a des choses qui sont très très générales. Donc on va essayer de jongler entre ce qui est du cas particulier de la vache, du cas particulier des mammifères, du cas particulier des vertébrés et ce qui est très général, c'est-à-dire partagé par l'ensemble des animaux. Donc voilà, si les choses ne sont pas claires par moment, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, de toute façon, à faciliter l'apprentissage. Alors, les animaux, tout le monde sait ce que c'est. Donc la définition, elle paraît relativement simple quand on y pense. Sauf qu'en réalité, ben, ce n'est pas forcément si simple que ça. Comment vous définiriez un animal qui vous demande, là, comme ça, de vous donner une définition. Qu'est-ce que vous en diriez ? Je vous écoute.
Ouais. Être vivant.
Alors déjà, être vivant, là on est bon. C'est un petit peu large quand même.
Oui.
Mais ça commence bien. Oui.
Qui dépasse une plante.
Alors, du coup, ça renvoie à la définition de question de plante. On va être emmerdé aussi, peut-être. À quoi on reconnaît, du coup, un animal par rapport à une plante? Alors le vert, ça marche pas, parce qu'il y a des grenouilles qui sont vertes. Bah, souvent, oui.
Les animaux, ils se déplacent.
Voilà, alors ça, c'est un critère qui est souvent... Alors, il n'est pas absolu, mais souvent, quand on pense à animal, on pense à se déplacer. Et d'ailleurs, animal, ça a la même étymologie que animé, qui vient en fait du latin anima, qui veut dire l'âme. L'âme, c'est un truc de philosophe, là, qui donne le mouvement dans la philosophie antique. Hein. Donc, c'est pour ça que la notion de mouvement, elle est associée à la notion d'animal. Alors, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des animaux qui, en fait, restent fixés sur leur rocher, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple d'animal qui est fixé comme une plante et qui peut bouger, mais qui ne va pas se déplacer de l'endroit où il se trouve? Vous en connaissez? Pardon?
Les moules.
Les moules, par exemple. Ouais, les moules, elles sont fixées à leur rocher et elles n'en bougent jamais. Alors, elles sont ballottées par les marées, tout ça, mais elles restent là, quoi. Donc du coup, la notion de mouvement, elle est peut-être un petit peu discutable. On n'arrive peut-être pas forcément à tout englober. Alors, si on va un peu dans le détail, on pourrait dire oui, mais la moule, elle est sous son rocher, mais elle s'ouvre et se ferme. Donc, il y a un mouvement. Sauf qu'il y a des plantes qui font des mouvements aussi.
Vous avez déjà vu des plantes carnivores, des pièges qui se referment. Pourtant, ce n'est pas des animaux. Donc, la notion de mouvement, elle est très pratique. En général, elle nous permet d'aborder cette notion d'animal assez facilement. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une définition qui est absolue. Ce qui fait qu'en réalité, la notion d'animal, ce n'est pas si facile que ça de le définir. Donc, je vais vous donner quelques petites définitions. Et sachant qu'il y en a, les définitions les plus complètes sont en général pas celles qui peuvent se voir très facilement et s'analyser très facilement. Alors, déjà, les...
Quoi ? Je voulais appuyer sur le bouton annuler, sinon il va se fermer.
Ah.
Ouais, il va se fermer tous les 10 minutes, il va demander de le faire.
Ah, c'est cool. Bon.
Voilà. Donc, je l'enlève, sinon...
Bon, ok. Alors, déjà, première définition, les animaux sont des organismes pluricellulaires, en général, doués de mouvement. Je vais vous commencer à peine à prendre des notes, mais tout ce qu'on a dit au début, il faut aller prendre un autre signe. Pour info. Donc, les animaux sont des organismes pluricellulaires, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs cellules, bon, ça, vous connaissez ce terme. Les animaux sont des organismes pluricellulaires, en général, dotés de mouvement. Ou au moins de mouvement de cellules. Les cellules se baladent, parfois pas l'organisme entier. C'est le cas par exemple de la moule. La moule, elle bouge, mais elle ne se déplace pas de son rocher. Donc, organisme pluricellulaire en général, doté de mouvement, et puis doué de mouvement. Et puis, bon, on a dit que c'était une définition qui n'était pas très précise, et puis qui ne s'appliquait pas forcément à tous les animaux. Donc, c'est une définition bien pratique, mais pas forcément. Alors, on a vu hier en TP la notion de caractère dérivé propre, qu'on appelle aussi synapomorphie. Et on va voir qu'en fait, les animaux, ils possèdent des caractères dérivés propres, des synapomorphies qui sont un petit peu plus complexes que juste aller regarder si ça bouge ou si ça ne bouge pas, et qui vont nous permettre de définir un petit peu plus régulièrement, un petit peu plus rigoureusement ce groupe. Donc les animaux possèdent certaines synapomorphies, certains caractères dérivés propres, à la fois au niveau des cellules, au niveau des molécules ou au niveau du métabolisme. Donc il y a des synapomorphies, c'est-à-dire des caractères dérivés propres, qui sont partagés par tous les animaux, par définition, et qui concernent les cellules, qui concernent les molécules, qui concernent le métabolisme, c'est-à-dire différentes parties de l'organisme. Alors, parmi les synapomorphies cellulaires, alors, qu'est-ce qu'on appelle une synapomorphie cellulaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Synapomorphie, c'est caractère dérivé propre, donc un caractère qui est apparu au cours de l'évolution et qui n'existe que chez les animaux, mais qui concerne les cellules. En d'autres termes, connaissez-vous une synapomorphie cellulaire des animaux ? Ouais.
Le noyau ?
Je suis pas d'accord. Alors, synapomorphie, ça veut dire caractère dérivé propre. Ça veut dire qu'il n'existe que chez les animaux. Ok ? C'est le propre, il est important. Et sinon, ça ne marche pas. Parce que, du coup, le noyau, c'est une synapomorphie cellulaire de quel groupe ?
Des eucaryotes.
Des eucaryotes. Et donc, c'est beaucoup plus grand que les animaux. Oui.
La forme des cellules.
La forme des cellules, c'est-à-dire ? Ouais, mais ça arrive aussi des cellules carrées chez les animaux. Donc la forme des cellules, c'est pas un critère. Surtout qu'il y a une diversité de formes qui est absolument incroyable chez les animaux, pour les cellules. Il y a des cellules super allongées comme les neurones, et des cellules toutes rondes comme les cellules sanguines. Donc voilà, c'est justement pas un critère la forme chez les animaux. Alors est-ce qu'il y a un type de cellule qu'on rencontre chez tous les animaux et que chez les animaux ? Qu'est-ce qu'on appelle un type de cellule ? Vous pouvez me citer des types cellulaires ? Vous savez qu'il y a plusieurs types de cellules dans un organisme, qui ont différentes fonctions.
Les neurones.
Le neurone, c'est un type cellulaire. Pardon ?
Les globules.
Ah, les globules, c'est plusieurs types cellulaires. Il y a les globules blancs, et même dans les globules blancs, il y a plusieurs types cellulaires. Il y a les lymphocytes, il y a les lymphocytes T, les lymphocytes B, il y a les macrophages. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est des types cellulaires. Alors du coup, est-ce que dans ce qu'on a cité là, il y en a un qui est typique des animaux et qu'on trouve chez tous les animaux et que chez les animaux ? Les neurones. Le neurone est une synapomorphie des animaux. Une synapomorphie cellulaire des animaux. C'est-à-dire que c'est une cellule qui existe chez tous les animaux, sans exception, mais qui n'existe que chez les animaux. Et là, pour vous, c'est une vraie définition. Donc, en gros, vous prenez un truc, vous regardez s'il y a du neurone, c'est animal, s'il n'y a pas de neurone, c'est pas animal. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que sur la souris qu'on a vu hier, c'est pas comme ça, en regardant la souris de loin, qu'on va voir s'il y a des neurones ou pas. Donc c'est pour ça que ces définitions, elles sont absolues, mais elles sont souvent pas forcément très faciles à mettre en œuvre au jour le jour. Et encore, ça, c'est pour les synapomorphies cellulaires, les synapomorphies moléculaires, c'est encore une autre histoire. Un autre exemple de synapomorphie cellulaire, c'est la présence de muscles. La cellule musculaire, c'est aussi, elle est aussi présente chez tous les animaux, et tous les trucs qui possèdent des muscles sont des animaux. Donc on a bien un caractère dérivé propre, et donc une synapomorphie cellulaire. Donc neurones et muscles, c'est, voilà, c'est une, deux bonnes définitions pour définir les animaux.
Et les globules rouges, ça marche ?
Ça marche pas du tout. Est-ce que vous connaissez des animaux qui n'ont pas de globules rouges ? C'est ça la question en fait.
Des poissons.
Non, ils en ont. Alors, ils ont des globules rouges qui ont un noyau. Alors, les globules rouges, c'est une synapomorphie des vertébrés. Donc, les poissons, les reptiles, les oiseaux, tout ça, ça a des globules rouges. Les globules rouges qui sont en forme de béret là, et qui n'ont pas de noyau, vous avez peut-être vu concernant les mammifères, ça c'est que chez les mammifères. Mais par contre, tous les protostomiens, par exemple, ils n'ont pas de globules rouges. Les insectes, ils n'ont pas de globules rouges. Les méduses n'ont pas de globules rouges. Les vers de terre n'ont pas de globules rouges. Enfin, je peux vous faire une liste, il y en a plein. Quoi. Donc voilà, le globule rouge, ça ne marche pas. Ça aurait pu. Là, pour le coup, c'est une synapomorphie des vertébrés. Alors, bon, voilà, on a vu un petit peu ce qui se passe du côté des types cellulaires. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des molécules ? Est-ce qu'il y a des molécules, des assemblages d'atomes, qu'on ne trouve que chez les animaux et qu'on ne trouve pas chez les autres ? Enfin, si je vous le dis, c'est qu'il y en a. Alors, je ne vais pas vous demander de l'inventer, enfin, sauf si vous le savez, vous avez une idée ou pas ? Le cholestérol. Le cholestérol, c'est une molécule qu'on reverra. Le cholestérol, c'est une molécule assez complexe, enfin, non, c'est pas très complexe, mais il y a des questions à apprendre. C'est un lipide, le cholestérol, et qu'on trouve, qui a de très 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 nombreux rôles, c'est une molécule fondamentale chez les animaux, qu'on trouve notamment dans les membranes des cellules. Bon, ben, le cholestérol, il y en a chez tous les animaux, et tout ce qui a du cholestérol est animal. Ça veut dire que chez les plantes, ben, nous n'avons pas de cholestérol, forcément. Et chez les bactéries non plus, chez les eucaryotes unicellulaires non plus, chez les champignons non plus, et voilà. Il y a des trucs qui ressemblent au cholestérol, mais il n'y a pas le cholestérol. Donc c'est un bon exemple d'une synapomorphie moléculaire, et non plus cellulaire. Et puis, enfin, alors on pourrait également parler de synapomorphie métabolique, c'est-à-dire un type de métabolisme qu'on trouve chez les animaux. Alors, des synapomorphies métaboliques simples, j'en ai pas trouvé. Du coup, je vais vous en donner une qui n'est pas une vraie synapomorphie. En gros, quel type de métabolisme trouve-t-on chez les animaux ? Alors, le métabolisme, je vous rappelle que c'est l'ensemble des réactions chimiques qu'on observe chez un être vivant. Les grands types de métabolisme, c'est est-ce que je suis capable de fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale, ou est-ce que je suis obligé d'avoir de la matière organique pour fabriquer ma matière organique ? D'après vous, un animal, ça fait quoi ? Il reste en particulier au SPVT. Ouais. Un animal, ça respire. Et la respiration, c'est le fait de retirer de l'énergie à partir de la matière organique préexistante. Vous, pour fabriquer votre énergie, pour réaliser tous les travaux cellulaires que vous avez besoin de faire, vous êtes obligé de manger. Si vous ne mangez pas, vous n'avez pas d'énergie. Une plante, elle n'a pas besoin de ça. Le soleil, elle chope du CO2 et de l'eau, et tout va bien. Quoi. Donc, ça, c'est un métabolisme particulier qu'on observe chez les animaux, qu'on appelle l'hétérotrophie. L'hétérotrophie pour le carbone et pour l'azote. Donc ça veut dire que la source de carbone, qui vient de matière organique, et la source de matière organique azotée, comme par exemple les acides aminés, elle provient forcément de matière déjà organique. Vous êtes obligé de consommer de la matière organique pour pouvoir fabriquer toutes les molécules dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas capable de prélever dans l'environnement du carbone minéral, c'est-à-dire du CO2, ou de l'azote minéral, comme par exemple du diazote. Vous êtes obligé d'avoir une source organique de ces deux éléments chimiques. Alors ça, en réalité, ce n'est pas vraiment une synapomorphie des animaux, parce qu'il y a des êtres vivants qui sont hétérotrophes pour le carbone et l'azote, mais qui ne sont pas des êtres vivants. Notamment, les champignons, ils sont hétérotrophes pour le carbone, souvent ils ne sont pas hétérotrophes pour l'azote, mais par contre, ce n'est pas des animaux pour autant. Ce n'est pas vraiment une synapomorphie, disons que c'est un caractère dérivé, mais qui n'est pas propre aux animaux. En tout cas, si vous avez un truc qui n'est pas hétérotrophe pour le carbone et pour l'azote, là vous êtes sûr que ce n'est pas un animal. Ça, c'est sûr. Bon, donc vous voyez que des définitions, finalement, on peut en donner à différentes échelles, avec différents regards, et qui sont plus ou moins facilement utilisables.
Alors, enfin, vous savez, parce qu'on l'a vu hier en TP, que tout groupe peut être défini par sa position systématique. Vous me rappelez ce que ça veut dire, la position systématique ? Donc, tout groupe comme les animaux, donc les animaux ne font pas exception, peut être défini par sa position systématique. C'est quoi la position systématique ? Ouais, c'est la place dans la classification du vivant, la place dans la classification phylogénétique. Et cette place, on la trouve comment ? Ben, on la trouve grâce justement à toutes ces synapomorphies qu'on a réussi à définir, grâce à tous ces caractères dérivés propres. C'est ça qui permet de construire des arbres phylogénétiques. Donc, le groupe des animaux peut être défini par sa position systématique, c'est-à-dire sa position dans l'arbre phylogénétique du vivant. Et il se trouve que le groupe des animaux, c'est un groupe qui est dit monophylétique. Le groupe des animaux, c'est un groupe qui est dit monophylétique. Parfois, on parle aussi simplement de groupe naturel. Groupe monophylétique ou groupe naturel. Et je vais vous donner la définition de ce que c'est un groupe monophylétique. Et ensuite, on fera un petit schéma pour l'illustrer. Donc, c'est un groupe monophylétique. Un groupe monophylétique, il rassemble tous les individus... Le groupe monophylétique des animaux rassemble tous les individus